20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Comment une butte normande peut-elle livrer les mêmes armes que celles du siège d'Alésia? Que s'est-il donc passé dans les années 50 avant notre ère, sur ce vaste plateau dominant la Manche et la bourgade de Port-en-Bessin? On le sait, l'année 52, la défaite d'Alésia, n'ont marqué ni la fin de la guerre des Gaules, ni la romanisation immédiate de la société celtique. Et aujourd'hui, le Mont Castel est une des clés archéologiques pouvant nous éclairer sur cette période obscure, celle comprise entre la fin de l'indépendance gauloise et le début de la romanisation. Sur le terrain, une équipe de chercheurs fouille actuellement ce Mont Castel et vient d'ailleurs d'y faire une autre très belle découverte, celle d'un dépôt d'armes métalliques, un trésor de l'âge du bronze. Je me suis donc immédiatement rendu à Port-en-Bessin pour y rencontrer Michel Redé de l'EPHE, Cyril Massigny et Anthony Lefort de l'INRAP. Cyril Massigny, curieusement, on évoque assez rarement l'âge du bronze. Serait-ce parce que cette période est délaissée par les archéologues ou que ceux-ci ne font aucune découverte?
Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, l'âge du bronze est mal placé chronologiquement. C'est entre le néolithique et puis l'âge du fer, entre deux grosses périodes. Donc c'est souvent ce qu'on appelle un oublié de l'histoire. Pourtant, les découvertes sont quand même nombreuses, finalement. Et c'est le cas ici, puisque ici, on trouve, depuis les premières campagnes de fouilles, d'assez nombreux vestiges de cette période-là.
Et quelle est la chronologie exacte de ce délaissé de l'histoire?
Alors l'âge du bronze, on est entre moins 2300, moins 800. Et ce qu'on trouve principalement à Port-en-Bessin, c'est autour de moins 1000, pour faire simple, quoi.
Quelle est la différence par rapport au néolithique? On est à peu près dans le même type d'économie. On a d'un seul coup l'apparition d'objets en bronze, des parures, des armes, un point c'est tout?
Non, pas du tout. L'âge du bronze, c'est plein d'innovations. C'est une période clé de notre déroulé historique. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place, en particulier une plus forte complexification sociale, surtout au début de la période, avec des élites qui vont peu à peu s'accaparer tout le territoire. On va même avoir la mise en place de systèmes fonciers, entre guillemets. Et ces gens-là vont prospérer, et peu à peu, on va avoir le métal qui va circuler dans cette nouvelle société. Et les différentes sociétés de l'âge du bronze, sur le déroulé de l'âge du bronze, vont apporter plein de choses. Le commerce à longue distance, les bateaux, même des mesures de pesée qu'on retrouve à l'échelle européenne, l'économie commerciale devient très présente.
Ça tombe bien, en Normandie et en Bretagne, il y a quand même beaucoup de découvertes où beaucoup de choses ont déjà été trouvées.
Ce qui est une des bases de l'économie de l'âge du bronze, qui est le matériau, le bronze, donc le mélange de cuivre et d'étain. Il y a énormément de dépôts qui ont été découverts depuis 150 ans, surtout dans le massif armoricain. Donc on savait que c'était une région où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Depuis l'archéologie préventive, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, on a en plus ce complément maintenant, parce qu'on a les sites d'habitat qui vont avec, et on commence à comprendre comment la société s'organise autour de ces dépôts.
Puisque vous travaillez en Normandie, qu'est-ce que vous avez d'important ces dernières années sur ce sujet?
La principale ou celle qui avait fait le plus de bruit, ça a été la découverte de réseaux parcellaires, en fait, des systèmes de champs délimités par des fossés. Donc c'est des découvertes qui ont eu lieu à la fin des années 90, qui renvoyaient à des découvertes qui existaient déjà dans d'autres pays européens, dans le sud de l'Angleterre, au Benelux, aux Pays-Bas. On n'avait pas encore ce système-là en France, et on s'est rendu compte qu'en France aussi, on avait justement ce système foncier qui se mettait en place avec, très rapidement, au tout début du deuxième millénaire, des gens qui vont dresser des planimétries agraires, faire construire des fossés, des talus pour délimiter des champs et ainsi s'accaparer l'espace.
C'est-à-dire qu'on trouve des champs fossilisés avec des traces d'arrêt, on trouve des talus, des bords de champs?
On trouve surtout les bords de champs, donc on trouve les systèmes de fossés et de talus. C'est un système entre guillemets bocager, très similaire à celui qu'on peut voir encore dans le paysage d'ailleurs des mêmes régions de l'ouest de la France. C'est des sortes d'îlots, il y a des surfaces sur 300, 400 hectares qui vont être densément occupées. Puis après, plus rien, un nouveau système boisé. Et puis à quelques centaines ou kilomètres plus loin, on a à nouveau un système comme ça qui se constitue. Donc une formation en îlots, de systèmes bocagers, mais très très densément occupés avec énormément de fermes, d'enclos qui occupent l'espace.
Alors aujourd'hui, on est à Port-en-Bessin, et justement à Port-en-Bessin, on n'est pas du tout sur une ferme, on est sur quelque chose de très différent.
L'idée de cette fouille, c'était d'avoir un pendant à d'autres opérations qui avaient été faites dans la Haye, où on a réussi à délimiter des petites chefferies, des petits secteurs occupés durant l'âge du bronze, ces fameux îlots. Et dans la région, on a des remparts qui délimitent certains de ces îlots. Dans la Haye, c'est ce qu'on appelle le Hagdik. Hein. Et lorsqu'on confronte les données archéologiques, les habitats, avec les dépôts de l'âge du bronze, on se rend compte que les dépôts se retrouvent dans certaines situations, souvent à l'extérieur de la délimitation de la chefferie. Et à Port-en-Bessin, on avait à peu près le même système. On n'a pas un rempart comme le Hagdik, mais on a quatre sites fortifiés qui viennent entourer une grande dépression qui était en partie humide, avec un seul entrée pour ce dispositif paysager. Hein. Et lorsqu'on examine les dépôts trouvés au 19e siècle, on les a systématiquement à l'extérieur de ce dispositif ou sur un des sites de hauteur qui est le Mont Castel. Donc parmi les problématiques qu'on a développées sur la fouille du Mont Castel, il y avait cette idée de comprendre le rôle des dépôts au sein de l'espace habité.
Il y a surtout un rempart, et un rempart qui daterait de la fin de l'âge du bronze.
Oui, donc on est sur un plateau. Le Mont Castel, c'est une espèce de butte paysagère, une montagne pour la Normandie. Tout autour, on a un rempart qui n'est pas très volumineux, qui est un rempart qui fait environ 2 mètres de hauteur, hein, qui est presque effacé actuellement, hein, et qui correspond à plusieurs phases de construction. La première date du bronze final, vers moins 1000. Et puis ensuite, on a un deuxième rempart qui va venir par-dessus, qui date d'environ moins 500. Et puis un dernier rempart qui est en fait un système de palissade qui est mis en place autour de moins 40.
Comment peut-on se représenter ce rempart de l'âge du bronze ?
Alors le rempart, on en a un tout petit bout qui est encore très très bien conservé. Le rempart est constitué d'un massif en pierre avec un parement et puis un massif arrière avec un vrac de pierre. Ce parement, il est en très 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 gros moellons. On a des moellons qui font 1 mètre de long sur 50-80 cm de large. Des très très grosses pierres qui viennent pas du secteur, qui ont été récupérées sur d'autres sites beaucoup plus loin. Et tout ça fait plus d'un kilomètre de long. Hein. C'est un gros rempart. Et à l'intérieur du rempart, on a une constitution qu'on appelle sur noyau de chaux. C'est-à-dire qu'on a un système avec un boisement qui a pris feu, qui a consolidé en fait un noyau central de chaux qui maintient tout le rempart et toute la structure du parement.
Vous avez la porte ?
On a découvert la porte, au moins une des portes, parce que le site est pour partie érodé. On est vraiment tout proche de la mer, on est à quelques dizaines de mètres, donc il y a une partie du site qui est tombée à l'eau. Mais on a un accès qui est bien visible, c'est une rampe hein, qui vient s'installer sur la pente hein, de la butte topographique. Le rempart s'interrompt et on a un système palissadé qui se met en place à l'intérieur, qui aménage une entrée.
À l'intérieur, donc, on n'a pas une agglomération, mais on a des maisons.
On a des maisons que sur le bord du rempart. La fouille des sites de hauteur, c'est quelque chose qu'on retrouve avec abondance dans la littérature archéologique européenne. Moi, ce qui m'avait toujours choqué, c'est que toutes les découvertes anciennes, on les faisait le long des remparts. Et je m'étais dit, si on tape au milieu de ces sites fortifiés, on va avoir, ça va être plein de structures. Et ben ici, on l'a fait. Et ben on est comme les autres. On a des constructions près des remparts uniquement. Tout l'espace central est dénué de structures de l'âge du bronze. Mais tout le long des remparts, on a un niveau de sol très bien conservé avec les emplacements des constructions qui sont très difficiles à lire. On n'a pas de restitution possible de bâtiments encore, mais on a des plaques foyères et on a beaucoup de matériel. Donc, on sait que la vie se passait le long du rempart uniquement. Le matériel est un peu différent de ce qu'on peut trouver dans les campagnes, puisqu'on a une céramique qui est un peu plus luxueuse. On a des importations qui sont un peu plus continentales. On a beaucoup d'objets métalliques, mais on n'a pas de choses qui sortent de l'ordinaire au-delà de ça, quoi.
Pour construire un rempart de la sorte, il faut quand même un vrai pouvoir. Même local, il faut un vrai pouvoir.
Assez clair qu'il y a quelqu'un qui a commandé l'ouvrage, qui a réussi à le faire d'un seul tenant. On a sondé un peu partout le rempart, on n'a pas de différence architecturale. Hein. En une seule fois, sur un laps de temps qu'on ne peut pas calculer, hein, on a un rempart qui va s'élever comme ça sur ce point haut, hein, et un rempart qui fait près de 2 km de long. Et c'est pas le seul site fortifié ici. Le système de Port-en-Bessin qui regroupe 4 sites de hauteur, sur 4 des sites de hauteur, on a au moins 3 sites fortifiés de la même façon à la même époque.
Et puis, cette année, vous avez une découverte. Ça y est, vous avez trouvé peut-être ce que vous cherchiez, ou du moins pour partie.
On a trouvé pour partie ce qu'on cherchait, on en voudrait d'autres. Donc le site ici, il est connu parce qu'il y a un énorme dépôt d'objets métalliques qui a été découvert au 19e siècle en faisant des carrières, qui est le dépôt de Port-en-Bessin. Donc depuis le début, on a un petit peu ça en ligne de mire. Et cette année, on a enfin trouvé un dépôt. Donc c'est pas comme le dépôt au 19e siècle, c'est pas des centaines d'objets, mais on a un peu moins d'une trentaine d'objets conservés dans un récipient en céramique. Dépôt très caractéristique du bronze final, avec que des objets fragmentés, hein, des bouts d'épée, des bouts de lance, des bouts de hache.
Le tout était contenu dans une sorte de vase. C'est quelque chose qu'on aurait voulu cacher ?
Manifestement une envie de cacher. Tout est contenu dans un tout petit récipient, hein, donc un petit gobelet qui est caractéristique de ce qu'on connaît un peu plus dans l'est de la France, hein, mis à l'écart de la zone habitée. Il n'y a pas de repère au sol, il n'y a rien. Donc c'est une structure enfouie, quoi.
Un dépôt, c'est donc un trésor.
Ouais, on peut l'entendre comme ça. En tout cas, c'est une volonté de cacher les choses ou d'accorder ces choses au sous-sol. Hein. C'est toutes les hypothèses qui ont cours depuis, pareil, le 19e siècle, voire même avant. Hein. À quoi correspondent ces petits dépôts, hein, ou ces gros dépôts d'ailleurs ? Est-ce qu'on a affaire à des vrais trésors, voilà, une somme accumulée en matériaux cachés par un individu ou une famille. Est-ce qu'on a affaire à une cage de fondeur? C'était la théorie en vigueur au 19e siècle, hein, sur laquelle on est beaucoup revenu. Ou est-ce que c'est un geste cultuel, une manifestation pour accorder au sous-sol, à des divinités cnoniennes, hein, une masse métallique qui devait représenter une certaine somme à l'époque, quoi.
L'idée d'un dépôt de bronzier, de fondeur, était donc une idée très liée au 19e siècle. Elle est devenue désuète ou non?
Il y a 5 ans, j'aurais dit, c'est complètement désuet. Depuis, on a d'autres découvertes, hein, qui permettent quand même de relativiser un peu les choses. Il y a un très gros site qui a été fouillé en Angleterre par un collègue qui s'appelle Mark Knight l'année dernière, hein, qui est Moss Farm. Donc un site très très bien conservé avec des bâtiments circulaires. Hein. Tout le bois est encore en place, en milieu humide. Hein.
Une sorte de Pompéi anglais.
C'est comme ça que c'était marqué dans les journaux anglais, en tout cas. Et lorsque les chevaux des structures bâties ont été démontés dans le sol d'habitat, parmi les vestiges du quotidien, hein, il y avait un petit vase avec aussi des pièces métalliques à l'intérieur, une sorte de rebut comme on trouvait encore au 19e ou au début 20e dans nos fermes, hein, un petit vase où on va déposer les objets pour les recycler par la suite. Donc là, c'est clairement des matériaux qui étaient prévus pour la refonte après.
Pourquoi sont-ils brisés? Pourquoi ne sont-ils pas entiers?
Là aussi, on peut tout un panel d'hypothèses. Hein. Dans le cadre d'un travail de refonte, c'est plus facile de travailler avec des objets brisés pour pouvoir les mettre dans le creuset. À l'opposé, si on envisage la théorie cultuelle, ces objets, quand on les regarde un peu plus en détail, on se rend compte que les fils des épées, par exemple, est souvent haché. On a tapé dessus. Les épées sont pliées d'une certaine façon. Les fragments sont toujours un peu ritualisés, entre guillemets. Donc on a peut-être aussi une autre volonté derrière de sacrifier les objets avant de les mettre en terre.
Ce serait le troisième dépôt, le troisième trésor, va-t-on dire, qui aurait été trouvé à Port-en-Bessin, sur ce site du Mont-Castel.
Il y a le premier dépôt que je vous évoquais tout à l'heure, hein, trouvé au 19e siècle, qui est assez important, hein, qui est un des gros dépôts nationaux, qui est conservé au musée de Normandie, à Caen. Il y a un deuxième dépôt qui aurait été trouvé au début des années 2000, par des gens qui passent la poêle à frire, hein, au détecteur de métaux. Hein. Dépôt qui aurait été revendu en Angleterre, et celui-ci serait le troisième. Après, autour des dépôts, on a plein d'objets aussi complets de l'âge du bronze, hein, qui méritent d'être vus avec un œil aussi alerte pour comprendre le statut de ces objets par rapport aux dépôts, par rapport à l'habitat, etc.
Est-ce que vous avez émis une théorie justement sur ces dépôts?
Alors pour moi, il y a deux natures de dépôts, et ici ça illustre bien ces deux natures de dépôts. Il y a les dépôts qu'on peut trouver comme on vient de le faire, donc au sein de la sphère domestique ou à côté de la sphère domestique, qui ont une fonction déjà. Et il y a ceux qu'on trouve à l'extérieur des zones territoriales, les dépôts qu'on connaît au Agdi, qu'on connaît maintenant dans le Val-de-Serre, qu'on connaît ici, hein, qui se situent systématiquement à l'extérieur des limites hypothétiques des chefferies. Hein. Ces dépôts-là, ils ont une autre notion, hein, derrière. Hein. Moi, j'appelle ça des géosymboles. On va aller enterrer en limite de chefferies, hein, des dépôts régulièrement, parfois sur des temps très très longs. Dans le Val-de-Serre, on a des dépôts qui datent du tout début du bronze moyen, au bronze moyen 1.
Donc durant plusieurs siècles.
Ouais, durant plusieurs siècles. Et ces dépôts forment des couronnes qui délimitent en fait la chefferie, comme si on était revenu régulièrement pour marquer en fait la limite territoriale, hein, au sein de la communauté, pour rappeler que voilà, c'est ici que notre territoire s'arrête, et pour que la société, ben, le groupe bénéficie des auras du dieu divin. On va mettre en terre une masse métallique, la sacrifier pour avoir une meilleure récolte, par exemple, ou autre.
Ça pourrait être le cas ici, à Port-en-Bessin, au Mont-Castel?
Alors sur le Mont-Castel, non, puisque le dépôt est au sein de la sphère domestique, donc c'est quelque chose de différent derrière. Hein. Par contre, dès qu'on sort du système de Port-en-Bessin, là on a les mêmes choses dans les dépôts à l'extérieur. Au sein du Mont-Castel, le dépôt peut revêtir des différentes hypothèses. Hein. Moi, la cage de fondeur, pourquoi pas? Finalement, hein, on peut avoir... dans l'habitat, ou à proximité de l'habitat, hein, des objets déposés comme ça pour la refonte. Ça peut être aussi au sein d'une sphère beaucoup plus rétrécie que celle de la communauté entière, hein, la volonté de mettre en terre, pareil, de sacrifier une masse métallique pour s'accorder, par exemple, des meilleures récoltes. Hein. On sait qu'au bronze final, il y a des variations climatiques qui impactent durement le climat. La zone où on a trouvé le dépôt n'est pas encore assez étudiée pour l'instant. Il faut qu'on décape bien autour, qu'on comprenne ce qu'on a à faire. Pour aller un peu plus loin dans les hypothèses, on est vraiment au début, là.
Votre site ne s'arrête pas à l'âge du bronze. Il est aussi de période gauloise, ou du moins des années 500 avant notre ère.
Ouais, c'est ça. On a une deuxième phase d'occupation. Donc le site doit s'arrêter à la fin de l'âge du bronze, jusqu'au tour de moins 500, ou à la transition entre le premier fer et le second âge du fer. On a une nouvelle occupation assez dense sur le site. Le rempart va être remonté. avec des très très grands travaux, puisqu'on va dénuder toute la périphérie du Mont Castel. On va la mettre au blanc. Les matériaux vont être remontés pour permettre de remonter le rempart. On va remettre un nouveau muret au-dessus de ce rempart. Donc le site a une physionomie complètement différente. Et à l'intérieur, là, pour le coup, on a pas mal de structures d'habitat. C'est assez densément occupé, hein, avec des constructions sur poteaux plantés qui sont assez classiques. Hein. De grandes caves qu'on rencontre un peu moins régulièrement sur les fermes ou les autres habitats dans la plaine, hein, avec pas mal de matériel. Un matériel qui n'est pas très luxueux non plus, mais on a un peu de mobilier métallique, des bracelets en grenage, des choses comme ça, des objets qui sont un peu plus rares.
Oui, justement, comment peut-on appeler ce site? On ne peut pas dénommer ça un oppidum, pas une résidence aristocratique, ce n'est pas une ferme non plus. On appelle ça quoi? Un site de hauteur?
Ouais, site de hauteur, ça me va très bien. C'est un site de hauteur où on va retrouver à l'abri d'un rempart une ou plusieurs unités domestiques avec leur champ, très probablement. Il y a une idée d'enfermement, bien entendu, de protection. Hein. Mais ce qu'on va trouver sur place n'est guère différent de ce qu'on va trouver un peu plus bas dans le paysage.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Anthony Lefort, à une époque, on va dire, indéterminée, le site est déserté et les Romains viennent de nouveau investir la place.
Oui, alors ça, c'est une question qu'on se pose. En fait, quand l'armée romaine investit le site est déjà fortifié. En fait, il a fait l'objet de 3 fortifications successives durant le premier millénaire avant notre ère, autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Seconde fortification au milieu du premier millénaire, dans Altstadt Finalten ancienne, donc autour de 500 avant notre ère. Et puis une troisième fortification, bien gauloise celle-ci, qui remonte aux années 120 avant notre ère. Cette datation, elle est assurée par des datations radiocarbone. Donc, quand l'armée romaine arrive sur le site est déjà refortifié, en fait, quelques générations avant. Donc, on se demande si finalement le site est réabandonné entre temps, ce qui me paraît peu probable, ou alors, comme on l'observe, en fait, dans d'autres oppida en Gaule, hein, est-ce que l'armée romaine investit une partie de ce qu'on peut appeler un oppidum, en fait, hein, une ville gauloise fortifiée, et donc l'armée s'installerait dans les parties qui ne sont pas bâties, en fait, par les Gaulois. Donc, il resterait encore à découvrir l'habitat indigène, en fait.
Quels vont être les aménagements des Romains?
Justement, ça, c'est une des nouveautés de cette année, hein, c'est que jusqu'à présent, en fait, l'occupation romaine, elle se percevait essentiellement à travers le mobilier archéologique, les pièces de monnaie, par exemple, ou les pièces d'armement. Maintenant, on a des véritables structures archéologiques, des bâtiments qui sont spécifiquement romains, comme notamment l'Oréum, hein, le grand entrepôt qu'on est en train de fouiller actuellement. Un grand bâtiment de 35 mètres sur 10. Il faut imaginer un poteau tous les mètres, en fait, hein, qui supporte un plancher surélevé destiné à porter de très lourdes charges. Donc des greniers, en fait, qu'on connaît dans les différents camps romains. Donc là, c'est véritablement la signature, hein, d'une armée d'occupation qui s'installe pour plusieurs saisons, hein, véritablement. On a donc différents bâtiments de ce type-là. Également le fossé qu'on a découvert cette année, qui délimite, sinon le camp romain, en tout cas une partie du camp, puisque maintenant on peut véritablement parler de camp militaire plutôt que d'une simple occupation militaire dans un habitat civil. Ce fossé sépare peut-être une partie logistique du camp, à l'intérieur duquel on trouve notamment les aires de stockage, notamment visibles à travers le grand entrepôt qu'on fouille actuellement, et d'autres zones comme notamment le baraquement des troupes, l'habitat.
Il y aurait aussi des petits foyers culinaires au bord du fossé romain. Et ça, c'est une chose très caractéristique donc de l'armée romaine qui s'implante quelque part.
Oui, alors ça, c'était ce qu'attendait Michel Redé, hein, notamment, hein, quand on a commencé à évoquer la présence militaire sur ce site-là, puisque c'est une caractéristique, hein, des camps militaires romains. Donc les foyers sont aménagés de manière regroupée sous forme de batterie, en fait, le long de ces fossés, et la bouche de ces fours donne directement dans le fossé. C'est-à-dire que les aires de travail se font dans le fossé. Les légionnaires vont cuire leur pain dans le fossé, et ensuite, quand ils les vident, ils laissent les déchets, en fait, hein, les cendres, dans le fossé, et ce qui fait qu'ils se comblent progressivement. C'est pour ça qu'on a ce fossé qui est totalement noir, en fait, de charbon.
Je reviens sur cet entrepôt. Comment est-il? Il est très vaste. Comment peut-on d'ailleurs, dans ces cas-là, décrire ce site avec ce gros entrepôt?
Alors cet entrepôt, il mesure 35 mètres sur 10, hein, à peu près 350-400 mètres carrés de surface, auquel on peut éventuellement, hein, ajouter des mezzanines ou même éventuellement des étages. On a en fait un bâtiment qui est composé de 17 rangées de poteaux disposés tous les mètres. Donc véritablement une vraie plateforme destinée à supporter des charges très lourdes. Donc il faut imaginer hein, en élévation une grande grange monumentale hein, qui servait au stockage de charges assez massives hein, comme peuvent être les céréales.
Supposons que ce soit des céréales. Ces céréales, elles sont directement liées aux légionnaires qui sont ici ou destinées à d'autres choses ?
C'est une question en fait qui est assez compliquée parce qu'évidemment en premier lieu on pense à la logistique, à l'intendance militaire. Il faut évidemment assurer le pain aux soldats qui sont engagés sur le front finalement, c'est un front extérieur de Rome hein, quand même, on est sur une frontière de l'Empire maintenant. Mais également on peut imaginer aussi que ces troupes-là sont là aussi pour relancer l'économie locale. Donc il est assez difficile de séparer le militaire du civil en fait. En tout cas si on est véritablement à l'intérieur du camp militaire qui délimite uniquement un secteur en fait, hein, peut-être simplement le cœur logistique du camp. L'emplacement du Mont Castel, en fait, je pense moi personnellement que ce qui a motivé l'implantation, en fait, l'investissement du site par les troupes romaines, c'est son port en fait. L'intérêt stratégique en fait pour l'armée romaine, c'est aussi donc de marquer une frontière de l'Empire. On est en face de l'île de Bretagne qui elle est encore indépendante, mais on a aussi un port qui est naturellement protégé par les reliefs qui délimite la plaine fermée de Pont-en-Bessin, qui topographiquement en fait est en cas unique sur le littoral bas-normand. Et donc l'intérêt pour l'armée romaine, c'est aussi de relancer le port et l'économie locale en fait, et donc notamment le port pour l'import-export, notamment le commerce avec l'Angleterre, qui permet de toucher des taxes, des impôts pour alimenter le trésor romain.
Vous me parliez de légionnaires, mais vous avez quoi comme mobilier militaire ?
Alors oui, effectivement, quand on parle de camp militaire en Gaule, on évoque le plus souvent des troupes auxiliaires en fait, du fait notamment des nombreuses monnaies gauloises qu'on retrouve sur ces sites. Mais en fait, on a des armes qui, elles, sont typiquement l'apanage du légionnaire, comme notamment le pilum. Et en fait, on retrouve sur le site du Mont Castel notamment de ces armements qui sont spécifiquement liés aux légionnaires et donc aux citoyens romains. On a des troupes aussi, vraisemblablement, en tout cas, on a des cavaliers sur le site. Après, on a toujours des difficultés à quantifier hein, ces troupes-là, mais on aurait peut-être un ensemble assez mixte.
Vous me parliez de cavaliers, vous avez découvert par exemple de très beaux éperons. Ça, c'est une chose très rare, normalement, découvert en fouille.
Oui, alors c'est particulièrement rare de découvrir ça en fouille. Ce qui est intéressant, en plus de ces éperons, on retrouve en fait les mêmes dans des tombes de cavaliers très vires, en fait, au Luxembourg. Donc voilà, on peut peut-être envisager hein, qu'on a des cavaliers très vires sur le littoral normand à cette époque-là. On a également quelques monnaies hein, qui viennent du Luxembourg, en fait, sur le site. Donc pourquoi pas éventuellement parler d'une origine très vire.
Donc une armée auxiliaire gauloise au service donc de Rome. Parmi les monnaies, bien sûr, vous en avez beaucoup. C'est un site très connu pour cela. Oui. Parmi les monnaies, une très belle, la Gaule vaincue, bien sûr, avec monnaie appartenant à César et datée des années 46 avant notre ère. Donc après la conquête gauloise.
Oui, alors ça c'est une question qu'on se pose. Les deniers de la République qu'on retrouve sur le site sont vraiment importants pour nous, puisque contrairement aux monnaies gauloises qui elles ne sont pas datées à l'année près, hein, elles nous indiquent en fait la date vraisemblablement d'abandon du site. C'est-à-dire que pour le moment la frappe la plus récente date de 36 pour un denier frappé pour octave. Et ensuite, on n'a aucune monnaie que ce ni coloniale ni impériale. Et pourtant, on a des moissons assez abondantes, hein, puisqu'on est à peu près à 500 monnaies actuellement. Et sur ces 500 monnaies, aucune n'est postérieure à 36 avant notre ère.
Donc, comment voyez-vous l'histoire du Mont Castel ? Une armée romaine, de légionnaires, s'implante avant, après la conquête romaine ?
On peut simplement dire que au début du règne d'Auguste, l'armée a déserté le plateau.
Ça correspond... Donc dans les années moins 27.
Dans les années moins 27. Et c'est durant justement le dernier quart du 1er siècle avant notre ère hein, que sont fondées hein, les nouvelles capitales de cités augustéennes, qui sont des fondations ex nihilo. Et donc ici, on a la nouvelle capitale de cité qui sera Bayeux, 10 km du Mont Castel, et qui se trouve implantée à mi-chemin entre les deux oppida de cette période, Catillon et le Mont Castel.
On peut penser que ces armées sont là pour contrôler la population qui a encore peut-être quelques velléités de révolte ?
Oui, entre autres. Alors il y a évidemment une mission d'occupation, de pacification. mais également une mission de relance économique aussi, hein, parce que en fait, ces troupes ont pour vocation de garder ces territoires sous contrôle, mais aussi de préparer leur intégration à l'Empire, ce qui sera chose faite à partir d'Auguste, ce qui est en fait un processus assez rapide, hein, puisqu'on a à peu près en l'espace d'une génération finalement, entre les troupes d'occupation qui font suite à la guerre des Gaules et les premières fondations de cités gallo-romaines.
Michel Redet, vous êtes le fouilleur d'Alésia. Comment percevez-vous ce site donc de Port-en-Bessin ?
Finalement, pas si différent de celui d'Alésia du point de vue du terrain. Ce qu'on avait sur les plateaux d'Alésia comme type de fouille, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a ici. C'est très très proche, c'est-à-dire un plateau calcaire diaclasé avec dedans des empreintes en creux qui sont extrêmement peu parlantes par elles-mêmes et qu'il faut absolument arriver à mettre en réseau sur de très vastes surfaces si on veut y comprendre quelque chose. C'est vrai, ça, de la plupart des camps militaires d'époque romaine, on n'y comprend rien si on fait des petites fouilles limitées. Bien. Le deuxième point que l'on peut remarquer, c'est que ce site qui s'inscrit soit pendant la guerre des Gaules, soit juste après, c'est à 10 ans près c'est très difficile, ou 15 ans près c'est très difficile d'être précis, ce site est différent complètement des camps d'Alésia dans la mesure où il est plein de structures intérieures. À Alésia on cherchait surtout les systèmes défensifs, mais on était à l'époque d'un siège. Donc on n'avait pas eu une occupation longue du site d'Alésia. Ici, au contraire, on a énormément de structures intérieures sur cet oppidum, mais surtout on a des structures de stockage, on n'a pas pour l'instant véritablement de structures d'occupation militaire, enfin de casernement militaire, mais surtout des structures de stockage qui montrent que c'est une occupation militaire, mais pour soit une campagne, soit le ravitaillement d'une armée qui circule dans toute la région, et probablement aussi le contrôle d'une population régionale, ce qu'on n'avait pas du tout à Alésia. Donc c'est un cas de figure qui pour l'instant reste relativement inédit. On a très peu d'exemples de cette nature. Donc c'est quelque chose de très important pour notre connaissance de l'occupation de la Gaule après la conquête et de la manière dont ça s'est fait. Alors, on vient de publier justement un ouvrage qui s'appelle « Les armées romaines en Gaule à l'époque républicaine ». Donc, le site de Port-en-Bessin y figure. Et on a réuni là toute une série de témoignages qui sont des témoignages récents, fouilles de différents acteurs de l'archéologie préventive en France. Depuis le premier qui est connu, et ça c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire probablement la bataille d'Orange, jusqu'à un camp qui précède immédiatement l'occupation de la Rhénanie, c'est-à-dire Trèves. Donc on a toute une série de camps, de structures militaires, et on pourra à partir de là commencer à réfléchir sur la manière dont la Gaule a été véritablement occupée à ce moment-là.
Les armées romaines en général investissent les villes, investissent les oppidas, ce n'est pas forcément le cas ici. Quel serait le site le plus similaire de Port-en-Bessin ?
Si on regarde les structures militaires, les sites les plus proches de Port-en-Bessin du point de vue de l'organisation semblent être certains des premiers camps du Rhin. Donc ça n'a rien à voir avec l'occupation d'un oppidum. Les oppidas occupés par l'armée romaine, ça c'est une nouveauté. Alors, il y a un cas qui est assez intéressant, qui est l'oppidum de Windisch, en Suisse. Windisch est un oppidum postérieur à la migration des Helvètes qui commence la guerre des Gaules, qui est donc occupé après la guerre des Gaules, comme n'importe quel type d'oppidum. Et puis, vers le milieu de la deuxième décennie avant Jésus-Christ, on voit s'installer sur place, au milieu de l'oppidum et à côté de l'oppidum, des structures qui ne sont pas des structures militaires, mais qui sont occupées, gérées par des soldats, avec une évolution très sensible de la nourriture carnée, des produits importés en termes de plantes, de la céramique, des amphores, etc. etc. Donc l'ensemble du matériel témoigne d'une romanisation déjà extrêmement poussée vers le milieu des années 15. Mais ce n'est pas un camp militaire. Le premier camp militaire, il est seulement de l'époque de Tibère, il est postérieur à 13-14 après Jésus-Christ, et donc on est dans une espèce de situation intermédiaire où manifestement ce sont les occupants de l'oppidum qui ont servi, si l'on peut dire, de milice avec une espèce d'ossature de l'armée romaine, mais ce n'est pas une troupe militaire. Et il y a deux, trois exemples comme ça, disons en Rhénanie. Donc c'est pas un camp militaire, c'est pas un oppidum. C'est pas non plus le cas de Port-en-Bessin, puisque à Port-en-Bessin, apparemment, le site n'était pas occupé au moment où l'armée s'est installée. Vous voyez, on cherche, on tâtonne, on cherche des modèles, on a des idées, on n'a pas encore complètement toutes les solutions, mais peut-être qu'aussi c'est une première tête de série pour comprendre un modèle d'occupation de la Gaule postérieure à la guerre des Gaules, sauf si, autre hypothèse, il s'agit d'un des sites de la guerre des Gaules, de la fin de la guerre des Gaules, mais ça, c'est pas encore décidé.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Delphine Baudet et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se penchera sur l'archéologie arctique et notamment alaskienne.